je parlerai de l'apogée du Moyen Âge. La période des 12 et 13e siècles vit une profonde évolution du monde chrétien. Ce fut une époque de collaboration souvent étroite entre la papauté et le pouvoir civil, représenté par l'empereur et par les rois de France, d'Espagne et d'Angleterre. Elle vit aussi le renouvellement des méthodes d'évangélisation des fidèles. Le monde chrétien, divisé entre Orient et Occident depuis le schisme grec, était en lutte avec l'islam qui régnait en Espagne et en Mésopotamie. Un espace encore païen subsistait au nord et à l'est. Le XIIIe siècle incorpora à la chrétienté les Slaves du nord-est, pendant que la reconquête connaissait d'importants succès en Espagne. Cette période connut des papes de premier ordre, Innocent III, Grégoire V et VII. Elle vit l'essor de deux grands ordres dits mendiants, patronnés par saint François et saint Dominique. L'Église d'Occident parvenait à un stade de plénitude. En 1215, Innocent III convoqua le Concile de Latran, qui, entre autres décisions, promulgua le dogme de la transsubstantiation. Notons la présence du mot « substance », que le Littré définit ainsi, ce qui subsiste de soi-même, à la différence de l'accident qui ne subsiste que dans un sujet. Le mot « subsister » est ainsi défini « continuer d'être ». Ces deux définitions sont assorties de commentaires qui occupent trois colonnes dans le dictionnaire. La chose n'est donc pas simple. La grande noblesse du mot « transsubstantiation » a eu pour résultat de l'écarter de plusieurs traductions. Par exemple, dans la traduction française de la Nouvelle Liturgie, le mot « consubstantiel » a été remplacé par « de même nature », ce qui n'a pas le même sens. Donc, le Concile adopta le mot « transsubstantiation ». Le mot était nouveau, mais la doctrine ancienne. Résumons-la. Premièrement, Jésus est présent dans le sacrement offert sous les apparences du pain et du vin. Deuxièmement, il s'y rend réellement présent. Il n'y a plus de substance, ni pain, ni vin, mais seulement son corps sacré. L'Église ajoute que cela se fait parce que toute la substance du pain et du vin passe à la substance du corps et du sang de notre Seigneur, ce que refuseront les protestants deux siècles plus tard. Pour illustrer ce dogme, le pape institua la fête du Saint-Sacrement, qui honore de façon particulière la présence de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Ce concile prit aussi une décision de discipline, l'obligation de la confession annuelle. La question de la confession soulève actuellement de nombreuses questions. Il serait temps de rétablir la dignité, la nécessité de la confession dite de dévotion, la confession dite de dévotion, non indispensable au sens strict du terme, mais essentielle pour la qualité de notre vie spirituelle. On a souvent comparé, par exemple dans le Cantique des Cantiques, la vie spirituelle à la vie amoureuse. Dans son Épître aux Éphésiens, saint Paul dit que le mari doit agir envers sa femme comme le Christ vis-à-vis de son Église. Avec cette nuance que, contrairement au Christ, il arrive au mari de pécher contre sa femme. Il est indispensable de demander pardon après un grave différend, encore plus en cas d'infidélité. C'est le péché mortel. Mais on ne peut que recommander de faire de même après un simple geste d'impatience. C'est une faute effective de provoquer une tristesse chez l'être aimé, surtout quand cet être est notre sauveur. Il convient donc de solliciter son indulgence. Un événement majeur de cette époque fut l'apparition des ordres mendiants. À la suite de saint Benoît, les monastères avaient été sémés dans toute l'Europe occidentale. Les moines s'adonnaient à la prière et au travail, tant spirituel que matériel. On leur doit la conservation soigneuse, un travail de bénédicte, la conservation soigneuse du travail légué par les anciens, accompagné naturellement d'un approfondissement de la doctrine. On leur doit aussi le magnifique art roman, et plus matériellement, la culture intensive, entre autres celle des jardins et des simples, support de la médecine par les plantes qui revient d'actualité, etc. L'ordre bénédictin était la crypte de notre civilisation, la source et la structure de notre Europe chrétienne. Ces écoles étaient nombreuses. Chaque monastère était un petit domaine assurant la gestion de ses richesses sous la protection du pouvoir royal. On parlerait maintenant d'une entreprise. Ces richesses étaient parfois importantes. On disait Le moine est pauvre, mais le monastère est riche. Certes, les dites richesses étaient largement distribuées. Pour ne citer qu'un exemple, le monastère de Cluny distribuait chaque jour plusieurs centaines de repas, certains disent plusieurs milliers de repas, aux indigents. Chaque monastère avait une hôtellerie, souvent un hôpital. Mais cette richesse était de plus en plus jalousée. Au XVIe siècle, le système de la commande le confisqua au bénéfice des puissants de ce monde. En tout cas, il faut reconnaître qu'elle demandait pour sa gestion un temps et un soin qui n'étaient plus strictement consacrés à la prière. De ce fait, la propagation de la foi en souffrit d'autant plus que les moines avaient pour vocation de rester dans leur monastère. La réaction à cet état de choses se vit autour de deux héros. À 18 ans, François était un jeune homme d'un grand rayonnement. Il était d'une intelligence brillante et d'un tempérament d'artiste. Son âme ardente faisait tout avec enthousiasme. À la suite d'une maladie suivie d'une dépression, il comprit que les richesses de ce monde ne satisferaient jamais son âme. Il méprisa alors ce qu'avait fait le charme de son existence et ne pensa plus qu'à conquérir les richesses éternelles. Mais son père, un riche commerçant, avait pour lui une ambition dans le monde juridico-politique. Il prit très mal la décision de son fils de vendre de ses marchandises à vil prix, on dirait maintenant à solder, pour reconstituer une église et soulager les pauvres. Il voulut lui interdire et le convoqua devant un tribunal. C'est alors qu'il eut la scène célèbre. Devant le dit tribunal, François se dépouilla de tous ses vêtements pour signifier son abandon des choses terrestres. L'évêque le revêtit de sa robe. Désormais, il s'habilla d'une robe grossière, serrée à la taille par un cordon, d'où le nom de cordelier donné à ses religieux. Il mena une vie de pauvreté absolue, prenant soin de ne maudire ni même de peiner qui que ce soit. Il vénérait Dame Pauvreté, avec laquelle il conclut un mariage mystique. Il parcourut la nature, chantant les merveilles de la création, et reçut les stigmates de la passion. Il recommanda son épouse à ceux qui décidèrent de le suivre, ce que beaucoup ne tardèrent pas à faire. Il leur demandait seulement de proclamer l'Évangile, ce qu'ils firent dans le monde entier. Les règles données par saint François étaient simples. Allez deux à deux, marchant avec humilité et modestie, gardez scrupuleusement le silence depuis matine jusqu'à tierce, c'est-à-dire à 9h du matin. En route, ne dites pas de paroles odieuses et inutiles, mais priez Dieu avec humilité. Un conseil qui serait bien utile dans notre monde de bavardages insensés. À sa mort, il laissait une famille religieuse qui, pour la seule Italie, comptait 5000 membres. Au XIXe siècle, ils étaient 120 000. Saint François mourut en 1226, âgé seulement de 44 ans, épuisé par ses pénitences. Peu avant sa mort, il demanda à une sainte femme de lui envoyer un petit morceau d'un gâteau qu'il avait fort apprécié au cours d'un séjour chez elle. C'était un gâteau à la pâte d'amande. Cette dame avait pour nom Frangipani. Le nom est resté au gâteau. Autour de ma vie professionnelle, j'ai eu l'honneur de travailler avec un signor Frangipani, descendant de cette illustre famille. Des personnes mariées fondèrent un tiers ordre de la pénitence que Saint Louis et Élisabeth de Hongrie illustrèrent par leur présence. Saint François destinait ses disciples au témoignage plus qu'à la prédication et à l'enseignement. Il tenait à l'humilité et donna à ses disciples le nom de frères mineurs. Il y eut toutefois des penseurs remarquables comme Saint Antoine de Padoue, 1195-1221, et Saint Bernardin de Sienne, 1380-1440, et aussi d'un Scott, 1266-1308, dont certaines positions furent jugées aventureuses. Adversaire de saint Thomas d'Aquin, il disait faire davantage confiance à la révélation qu'à l'intelligence. Ce relatif mépris pour les activités intellectuelles n'alla pas sans entraîner quelques tentatives orgueilleuses. La nature humaine est ainsi faite. Il fallut la recentrer et les règles de l'ordre connurent plusieurs adaptations, ne serait-ce que pour inclure la nécessité de tenir le budget d'une communauté. Mais les franciscains restent une gloire de l'Église. Les mêmes années virent l'apparition des frères prêcheurs. Saint Dominique naquit à Valence en Espagne en 1170. Il avait une grande tendresse de cœur, il eut toujours un grand amour pour les pauvres. Étudiant, il vendait ses livres pour les secourir. Dominique entra chez les chanoines voués à la contemplation. Il dormait peu, donnant le jour au prochain et la nuit à Dieu. Il fonda un ordre dont le but était la prédication. Les frères prêcheurs se préparent à leur ministère par un long noviciat. Confiant en sa dévotion à Marie, Dominique prêcha inlassablement le rosaire, la méditation des mystères de notre rédemption. Son influence fut importante dans l'art religieux. La présence du rosaire permet de dater beaucoup d'œuvres d'art. Pour convertir les hérétiques, il fonda avec 16 compagnons un ordre voué à la prédication destiné au maintien de la foi et, de la vraie doctrine. Il était persuadé que toute hérésie est due davantage à l'ignorance qu'à la malice. Il fonda un ordre dont les membres pourraient, se consacrer entièrement à la prédication, ce qui ne pouvait être le cas d'un clergé séculier qui doit assurer maintes tâches matérielles. Dans l'institution de son ordre, Saint Dominique avait le désir de former des docteurs et des professeurs, car il est nécessaire d'avoir des maîtres savants. Les nouveaux religieux devaient étudier la philosophie pendant 5 ans et la théologie pendant 2 ans. L'ordre eut un grand nombre de docteurs remarquables. Parmi les premiers, citons Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin et Saint Vincent Ferrier. Les dominicains jouent un rôle important dans les disputes actuelles. Saint Dominique voulait que les frères unissent à cette terre à l'enseignement, à la prédication et à la science. Innocent III ne permit pas que le nouvel ordre eût une règle particulière. Il le soumit à celle des chanoines réguliers de Saint-Augustin. En conséquence, il dut réciter en commun l'office de nuit. Il chargea les dominicains de l'inquisition, c'est-à-dire de l'examen des accusations d'hérésie, afin de mettre fin aux exécutions sommaires. On leur donna aussi le privilège de juger, d'apprécier les livres. Un tiers ordre fut instauré. Dans les siècles qui suivirent, on reprocha à la prédication dominicaine un côté abstrait de philosophie et théologie mal digéré. Il est certain que dans la scolastique, il y a toujours un risque de s'engluer, en négligeant le côté concret des choses. En ce sens, franciscains et dominicains sont complémentaires, selon que l'on met en avant le spirituel ou le temporel. Attachés à la nature, les franciscains sont un peu les écologistes d'une église dont les dominicains seraient les roseaux pensants. Il faut garder à l'esprit que, je cite l'abbé Huvelin, la fonction primitive des apôtres est d'être les gardiens d'une doctrine à laquelle ils n'ont rien à ajouter ou à retrancher. L'église n'enseigne pas de sa propre autorité, mais comme interprète des Écritures. Toute nouveauté est hérésie. L'abbé Huvelin cite le dogme de l'Immaculée Conception. Ce n'est qu'une lecture approfondie de saint Irénée, disciple de saint Jean, qui a proclamé que Marie est la nouvelle Ève. Elle est donc née dans le même état qu'Ève sortant des mains de Dieu, sans être souillée de la tâche originelle. C'est au XIIIe siècle que l'Europe chrétienne prit le visage que l'ennemi s'acharne à défigurer, en particulier depuis le siècle dit des Lumières, qui est plutôt celui des ténèbres. Siècle de l'invasion du mensonge et de la dictature de l'argent, siècle qui règne aujourd'hui et qui a défiguré notre civilisation. Priez Notre-Dame de se hâter à notre secours.